RFI. Grand reportage.
C'était il y a un mois, jour pour jour, le 25 mai dernier. Un noir américain, George Floyd, mourait étouffé sous le genou de Derek Chauvin, un policier blanc à Minneapolis. Les images de son calvaire, filmées par des passants et vues des dizaines de millions de fois, ont immédiatement horrifié l'Amérique. Le monde entier va demander la fin des violences policières contre les Noirs également. Avec notre envoyé spécial à Minneapolis, Eric DeSalve, nous avons choisi de revenir sur les premiers jours de ces protestations, là où tout a commencé.
My heart hurts. Because we're standing here where a man was murdered.
J'ai le cœur brisé parce qu'on est sur les lieux d'un meurtre. C'est ici que la vie d'homme a été prise, brutalement. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Cet homme a appelé sa mère au secours. Aujourd'hui, sa mère n'est pas là, mais moi, si. Parce que je suis une mère, moi aussi, de garçon. Alors je suis ici en tant que mère. Je suis ici pour cet homme et je suis aussi ici pour tous les garçons, tous nos enfants qui sont déjà morts et tous ceux qui vont encore mourir entre les mains de la police.
Est-ce que vous avez peur quand vous voyez la police ?
Mes fils ont peur, ils évitent la police. Ils ont même peur d'un simple contrôle routier pour excès de vitesse ou n'importe quoi. C'est terrible. À 15 ans, mon fils est effrayé et bouleversé par les images de cet homme en train de se faire assassiner. C'est trop lourd pour lui. Il se sent désespéré, impuissant. Il ne sait pas quoi faire.
C'était le 28 mai à Minneapolis, trois jours après la mort de George Floyd, à l'endroit même où ce père de famille afro-américain de 46 ans a été tué, étouffé sous le genou d'un policier blanc. Comme cette maman, l'arme sur le visage, fleur à la main, des centaines d'anonymes défilent ici, tous bouleversés par ces 8 minutes et 46 secondes d'agonie filmées par des passants et diffusées sur les réseaux sociaux.
And we don't get no justice!
We don't get no peace!
And we don't get no justice! If we don't get no justice,
we don't get no peace.
If we don't get no justice.
Ces derniers mots, I can breathe, je ne peux pas respirer, sont repris en boucle par les manifestants.
Breathe.
I say we can, you say breathe. We can
breathe.
We can
breathe.
I say we can, you say breathe. We can
breathe. Breathe.
Dans une atmosphère électrique, tous rendent hommage, expriment douleur, colère, indignation et lassitude. Ce bout de trottoir est devenu leur sanctuaire, respecté, protégé par les habitants. Ici, pas de pillage, pas de charge de la police.
This is a memorial to a life that was unnecessarily taken.
Un mémorial pour une mort sans raison, dit James Alberts, pasteur afro-américain, venu prier ici avec sa paroisse sur ce trottoir, devenu plus largement un mémorial pour toute l'histoire traumatique des Noirs américains.
They hung him on the ground.
C'est comme s'ils l'avaient pendu, mais au sol. Et on l'a tous vu en vidéo. Ils l'ont pendu au sol. On a tous l'obligation de dénoncer ça, d'autant qu'en vérité, cette oppression est une réalité pour nous depuis 401 ans, depuis 1619, quand les tout premiers esclaves ont été amenés sur le sol américain. Depuis cette date, on subit l'oppression. Ils nous tuent dans nos églises, ils nous tuent dans les rues, ils nous tuent sur nos lieux de travail, ils nous tuent dans nos maisons. Ça ne s'est jamais arrêté, ça a toujours été comme ça. Dans ce pays, on a toujours vécu avec le genou ou la chaussure de quelqu'un pour nous étouffer. Depuis 401 ans, avant même que ce pays ne soit un pays. On vit ici dans un état d'oppression. On a tous l'obligation de se lever et de combattre ça pour être sûr d'en finir avec ça.
In an oppressed state. And so we have an obligation, those of us who can, to do what we can to make sure that this goes away.
Est-ce qu'il y a un problème de racisme avec la police dans cette ville ?
Yes.
Question simple, oui. George est mort pour quelque chose qui ne vous aurait même pas envoyé en prison.
That you wouldn't go to jail for.
Parce que...
You're white. Right?
Parce que vous êtes blanc. Lui, ils l'ont exécuté. C'est une exécution.
Why? I don't know.
Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces policiers ?
They should be in jail right now.
Ils devraient déjà être en prison.
Right now.
Et pourquoi est-ce qu'ils ne le sont pas ?
They are white police.
Parce qu'ils sont blancs. Ce sont des policiers blancs.
They are white people.
Floyd!
George!
Floyd!
George!
Floyd!
George!
Floyd!
Au troisième jour de manifestation, aucun des quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd n'a en effet encore été arrêté. Alors, à la tombée de la nuit, au moment où James Alberts et d'autres pasteurs noirs chantent pacifiquement leur douleur devant son mémorial improvisé, à quelques kilomètres de là, dans le centre-ville de Minneapolis, la colère explose. C'est la troisième nuit de protestation et ce soir-là, les violences culminent. Les États-Unis revivent des scènes d'émeutes jamais vues depuis des décennies. Dans la nuit, d'épaisses fumées rougeâtres s'élèvent depuis l'une des artères principales de Minneapolis. C'est Lake Street qui brûle. Sur plusieurs kilomètres, tous les magasins sont pillés, incendiés, tous les bâtiments également, dont un particulièrement symbolique, le 3e Precinct, le commissariat le plus détesté, responsable de dizaines de bavures meurtrières ces dernières années et dont dépendait un certain Derek Chauvin, le policier tueur de George Floyd. Les policiers submergés ont abandonné leur commissariat. À l'intérieur, des manifestants euphoriques paradent victorieux au milieu des flammes et des décombres. Parmi eux, Peter, 18 ans, étudiant afro-américain.
Et ouais, on lance ces émeutes parce qu'ils nous tuent. D'habitude, on a peur d'eux. Mais ce soir, c'est eux qui ont peur de nous. Maintenant qu'ils ont peur, ils comprennent ce qu'on ressent, nous en tant que Noirs en Amérique. Seule la violence est écoutée. Les gens ne réalisent pas ce qu'on vit. Les gens ne réalisent ce qu'on vit que quand il y a des dégâts. On ne blesse personne. On ne blesse que des biens qui sont importants pour eux. Ils s'attendaient à quoi, franchement ?
Les images du commissariat en flammes font immédiatement le tour des chaînes d'information américaines. Est-ce que vous nous entendez maintenant ? Justice pour George Floyd, demandent les graffitis, paroles d'émeutiers taguées sur les murs, paroles d'émeutiers dans la rue.
We just tired of this shit. We finally
being heard. C'est la seule façon d'être entendu. On a déjà protesté pacifiquement des dizaines de fois. Personne ne nous a jamais écoutés. Maintenant, c'est fini. On n'est plus pacifique et on nous écoute.
Est-ce que vous pensez que la violence va vous permettre de changer les choses?
Yeah, they just make black history.
C'est comme ça que l'histoire des Noirs avance.
Stop killing black people for no reason.
They killed a dude.
Des policiers blancs ont tué un mec. C'est pas de la violence, ça? Donc c'est pour ça qu'on fait ça.
All right. So that's why we're doing this.
On fait ça parce qu'ils nous disent qu'il faut lancer une enquête. Mais pourquoi vous avez besoin d'une enquête? Le monde entier a vu qu'un homme a été assassiné. Alors pourquoi faut-il une enquête? Je crois que je sais pourquoi, en fait. Allez, je vais le dire. À cause du privilège blanc. Voilà pourquoi ils ne poursuivent pas ce policier tout de suite.
Est-ce que vous comprenez que la colère prenne cette forme-là, cette violence?
Oui, on a protesté pacifiquement pendant tant d'années. Ça ne nous a mené nulle part. Donc on est censé faire quoi maintenant? Attendre en silence le prochain mort? Non, on est là pour réagir et pour passer à l'offensive.
Et contrairement aux autres émeutes raciales qu'ont connues les États-Unis depuis les années 60, ce soir-là dans les rues de Minneapolis, les protestataires ne sont pas exclusivement des Noirs. Loin de là, beaucoup sont blancs comme Kenny, testeur de jeux vidéo dans le civil, et suffisamment âgé pour se souvenir du contraste avec les émeutes de Los Angeles en 1992, après le tabassage de Rodney King.
Back when Rodney King was beaten by the cops.
À l'époque, quand Rodney King a été frappé par les flics, les Noirs et les Blancs sont restés chacun de leur côté. Ils n'ont pas manifesté ensemble comme aujourd'hui. C'était une autre époque, on était divisés avant. Mais ce soir, on est réunis, on est une nouvelle génération, la génération des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont tout changé. Avant, ça passait juste sur les chaînes info. Maintenant, le monde entier voit ça. Ça touche beaucoup plus de monde, pas seulement les Blancs. Toutes les races, on est tous ensemble dans la rue aujourd'hui.
Face aux manifestants, la police submergée fait profil bas, reste en retrait. Seuls quelques agents tirent des gaz lacrymogènes depuis les toits pendant que Minneapolis s'embrase et que les pillards s'activent. Certains font même la queue pour dévaliser un hypermarché.
A free for all.
C'est gratuit pour tout le monde, prenez ce que vous voulez. Lance un jeune devant les portes éventrées du magasin où défilent des pillards poussant des caddies à travers gravats et bris de glace. Des caddies remplis de nourriture.
Food, yes, we're hungry. It's a riot, we can't shop.
Oui, on a faim, on veut de la nourriture, on ne peut pas faire nos courses à cause des émeutes. On veut la justice pour George, la justice pour cet homme noir. Il faut juste qu'il poursuive ces policiers parce qu'il faut que ça s'arrête, s'il vous plaît. Mais en attendant, on fait ce qu'on peut pour survivre. On vient ici parce que c'est la seule solution, il n'y a nulle part ailleurs où aller. Je ne veux même pas aller à la banque retirer de l'argent, je ne peux rien faire.
We have to do what we have to do to survive. There's nowhere else to go. There's nothing else to do. I can't go to the bank. I can't get my money out. I can't do fucking nothing.
Cette nuit de violence déclenche la colère de Donald Trump. Sur Twitter, le président américain taxe le jeune maire progressiste de Minneapolis de gauchiste radical et l'accuse d'avoir livré sa ville aux pillards. Le lendemain, le gouverneur républicain du Minnesota décrète un couvre-feu, puis le déploiement de la garde nationale pour le faire respecter. 2500 hommes avec fusils d'assaut et blindés prennent position devant tous les sites sensibles de la ville et bouclent la zone des émeutes. Dans le même temps, au milieu des ruines encore fumantes de la veille, des centaines de volontaires commencent à balayer les rues et offrent bouteilles d'eau et nourriture aux habitants. Presque tous sont jeunes et blancs. Ils ont répondu à des appels à la solidarité sur les réseaux sociaux pour déblayer les dégâts. La plupart n'ont pas participé aux émeutes et vivent ailleurs, dans des banlieues plus favorisées de Minneapolis. Mais comme Caroline, ils soutiennent les manifestants.
Ça fait plaisir de voir cette solidarité entre toutes les branches de la communauté. Du coup, je me dis que la situation n'est pas si désespérée, même si c'est facile à dire pour moi, en tant que privilégié. Mais ça fait plaisir de voir que tout le monde partage le même sentiment sur George Floyd, même ceux qui ne sont pas concernés par les violences policières. Moi, en tant que personne blanche, je ne sens pas que ma vie est menacée à chaque fois que je parle à un flic. Mais ce n'est pas pour autant que je ne dois pas me mobiliser pour ceux dont la vie est menacée quand il parle avec la police.
But that doesn't mean that I shouldn't show up for other people whose life is in jeopardy when they talk to police.
Au même moment, sur les téléphones, des alertes annoncent l'arrestation de Derek Chauvin. Le policier qui a tué George Floyd part en prison, accusé d'homicide involontaire. Mais pour Caroline, cela ne suffira plus à calmer la colère.
Perhaps a little bit, but I think...
Ça va peut-être calmer un peu les choses, mais juste un peu, parce que cet élan nous pousse plus généralement vers un changement de système. Le sentiment anti-police est encore complètement là. Ce n'est pas juste l'affaire d'un mauvais flic qu'il faudrait remplacer. Il s'agit beaucoup d'analyser et reconnaître que la police est à l'origine d'une injustice systémique.
Et 4 jours après la mort de George Floyd, la colère des habitants est aggravée par un autre péril, l'impossibilité de trouver de quoi manger, car ces émeutes secouent une ville encore totalement confinée en raison du coronavirus. Les magasins et supermarchés qui n'ont pas été détruits ou pillés sont fermés en raison de la pandémie. Les quartiers noirs sont déjà surreprésentés. Parmi les victimes du Covid-19, les émeutes les ont en plus transformées en déserts alimentaires.
Oui, c'est un désert alimentaire ici. Il nous faut des produits frais. On ne trouve plus les aliments de base dont notre corps a besoin. Pas de produits laitiers, pas de viande, pas de fruits ni de légumes. C'était déjà un peu un désert alimentaire avant, mais maintenant ça devient urgent et vital. Il s'agit de nos besoins de base et tout le monde le voit.
It's dire need. It's like the basic necessities.
Au bord d'une route de Saint-Paul, ville jumelle de Minneapolis, ce père de famille afro-américain, au chômage en raison du confinement, est venu chercher de la nourriture sous un soleil de plomb avec des lunettes de plongée et un masque sur le nez pour se protéger du Covid-19. C'est ici qu'une banque alimentaire vient d'éclore spontanément grâce à des appels aux dons sur les réseaux sociaux. Ces dons sont déposés sur le trottoir et immédiatement redistribués par des bénévoles installés sous des tentes, comme Gelinda, elle-même, au chômage.
We're giving whatever is donated to us. They're getting
On distribue vraiment de tout, de la viande, du lait, du pain, des boîtes de conserve, des couches, des lingettes, du lait pour bébé, tout ce dont les gens ont besoin pour vivre mais qu'ils ne peuvent plus acheter parce qu'ils n'ont plus accès au magasin. Il manque de tout. La viande, c'est ce qui manque le plus. Aujourd'hui, tout est parti très vite.
The meat is most important, but we run out of that so fast. But as long as we got it, we will give it.
Tous les magasins ont brûlé ou ont été pillés. Les propriétaires n'osent pas ouvrir. Les gens ne peuvent plus faire leurs courses. Alors comment sont-ils censés faire? Si on n'était pas là, beaucoup ne pourraient plus manger tous les jours. Mais grâce à nous, les gens vont tenir jusqu'à la réouverture des magasins.
Dans ce quartier afro-américain, tous les habitants subissent de plein fouet la double crise, émeute plus pandémie, comme l'explique Deren, un autre volontaire.
On est resté confinés pendant 2 mois à cause de la pandémie. On venait tout juste de déconfiner depuis une semaine et c'est à ce moment que tout ça est arrivé. Je travaillais dans un des plus grands magasins de chaussures de Saint-Paul. Tout a brûlé et je ne pense pas qu'ils vont reconstruire. J'ai perdu mon travail, maintenant je suis au chômage, mais ça ne m'empêche pas d'aider ma communauté.
Sans cette aide, qu'elle range avec soulagement dans le coffre de sa voiture, Kim, mère de 3 enfants, devait rouler près d'une heure pour trouver un supermarché ouvert.
C'est une galère quotidienne. Plus aucun magasin alentour n'est ouvert. Ces provisions vont m'aider à nourrir ma famille, mais juste pour quelques jours de plus. Avec la pandémie, on avait déjà des pénuries de produits, et maintenant, en plus de ces pénuries, les magasins sont fermés ou partis en fumée. Plus que des courses, ce qu'il nous faut, c'est la paix. C'est ça dont nous avons le plus besoin. Pour le moment, c'est la folie. Nous avons peur. Nous ne savons pas ce qui nous attend.
Et quand on lui demande que fait pour elle le gouvernement des États-Unis, bonne question, répond cette mère de famille afro-américaine. We people who are darker than blue, are we gonna stand around this town and let what others say? En l'absence d'aide publique dans cette première puissance mondiale, les habitants de ce quartier sont obligés de s'organiser eux-mêmes. Situation difficilement tenable pour ces communautés doublement fragilisées. Alors une semaine après la mort de George Floyd, au moment où les protestations ont gagné l'ensemble des États-Unis jusque devant les grilles de la Maison-Blanche, son frère, Terrence Floyd, vient se recueillir devant le mémorial. Terrence Floyd commence par s'agenouiller à l'endroit même où son frère a été tué par un policier blanc. Puis, le poing levé, le frère de George Floyd lance un appel au calme aux émeutiers.
Hello. I understand you're upset.
Je comprends que vous soyez tous en colère, mais moi, je ne suis pas ici en train de tout casser, de tout brûler. Moi, je ne suis pas en train de détruire ma communauté. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous faites ne sert à rien. Ça ne va pas me ramener mon frère. Oui, nous sommes en colère, mais ma famille est une famille pacifique. Et nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Dans chaque affaire de violence policière, c'est toujours le même scénario. Vous protestez, vous détruisez, et rien ne bouge. Vous savez pourquoi rien ne bouge? Parce que vous ne détruisez pas leurs biens. Vous détruisez les vôtres. Alors faisons ça d'une autre façon. Arrêtons de croire que nos voix ne comptent pas et allons voter. Allons voter à la présidentielle. Allons voter à toutes les élections.
Avant de repartir sous les applaudissements, Terrence Floyd fait répéter une fois de plus le nom de son frère. George Floyd, un nom encore inconnu quelques jours plus tôt, mais qui résonne désormais à travers le monde entier. Une semaine de colère noire à Minneapolis. Grand reportage, Eric Dosalve. Réalisation, Pierre Chaffanjon.